Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, 2 débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, plus 3,5% d'augmentation pour tous les fonctionnaires et ce dès le 1er juillet. La première séance de l'Assemblée nationale, ce sera cet après-midi. Et puis Damien Abad qui contre-attaque après une troisième plainte.
Nos deux sujets du jour à partir de 12h40. D'abord le Covid, le masque doit-il redevenir obligatoire dans les transports? Hier soir sur RTL, la ministre de la Santé appelait chacun au civisme. Et à 12h50, la dette qui atteint les 3000 milliards d'euros. La France est-elle pour autant au bord de la faillite? On pose la question à Marcia Liu.
Notre question du jour sur RTL.fr, allez-vous remettre le masque dans les transports comme le conseille Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé? Vous dites oui à 60%, non à 28%. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est du beau temps pour presque tout le monde.
Exactement, presque, parce qu'en fait sur le flanc est, ça reste chargé, pluvieux avec de violents orages entre la Côte d'Azur et les Alpes. Ailleurs, du beau temps et des températures en hausse, globalement comprises entre 22 et 26 degrés et 27 à 32 degrés près de la Méditerranée.
À tout à RTL Midi. Les 5 700 000 fonctionnaires vont donc voir leur rémunération augmenter et ce dès le mois prochain, plus 3,5% au 1er juillet. Le gouvernement l'a confirmé tout à l'heure. Insuffisant, répondent déjà les syndicats. Luc Faré est le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique.
Insuffisant parce que trop éloigné de l'inflation actuellement à 5,2%. On ne peut pas continuer à avoir un tel décalage entre l'évolution de l'inflation, l'évolution des prix, si nous voulons une fonction publique attractive.
La réaction de l'UNSA au micro RTL d'Anaïs Bouisseau. Anaïs, que l'on retrouve en direct du ministère de la Fonction publique. Bonjour.
Bonjour.
3,5%, c'est la plus grosse augmentation depuis 37 ans. Pourquoi les syndicats ne sont pas contents, Anaïs?
Alors c'est le jeu des négociations pour les syndicats. Ils disent que le compte n'y est pas et qu'à peine augmentés, les salaires seront grignotés par l'inflation. Eux espéraient jusqu'à 10 voire 25% d'augmentation pour Force ouvrière. Bon, cela dit, même jugée insuffisante, la revalorisation sera bel et bien visible sur les salaires. Déjà c'est symbolique et c'est à souligner, plus aucun fonctionnaire ne sera bloqué au SMIC dans les prochains mois. Ils vont tous être payés au moins un peu au-dessus. Je vous prends l'exemple d'une mairie. Le salaire de base d'un agent d'accueil en mairie aujourd'hui, c'est le SMIC. Dès l'été, il passera à quasiment 1350 euros. C'est 45 euros net de plus chaque mois dans la poche. Pour un instituteur à l'école, comptez 62 euros net de plus par mois. Et je vous donne un dernier exemple pour une sage-femme en fin de carrière. Le gain sera de plus de 110 euros par mois sur le salaire. Alors, le ministère, comme les syndicats le disent, c'est un début pour l'urgence, une première étape pour les fonctionnaires et d'autres améliorations devront être engagées dans les prochains mois.
Anaïs Bouisseau en direct du ministère de la Fonction publique pour RTL.
Et c'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne poursuit ses discussions avec les chefs des différents groupes à l'Assemblée.
L'idée c'est de limiter, d'éviter les blocages dans les semaines à venir. Premier à être reçu ce matin, le LR Olivier Marleix, qui a une nouvelle fois exclu tout accord de gouvernement. Lui et les autres se retrouveront cet après-midi à 15h pour la première séance de cette nouvelle Assemblée nationale, une première séance extrêmement codifiée, Thomas Després.
Oui, je peux vous dire qu'ici à l'Assemblée, on est encore en plein préparatif. Les députés nouent leurs cravates, viennent repérer leur place dans l'hémicycle. Certains font même quelques photos pour immortaliser une séance qui, comme tous les 5 ans, sera assez singulière. Plusieurs particularités, Amandine. Déjà, le président de la séance, c'est la tradition, c'est le doyen de l'Assemblée nationale qui s'installera au perchoir tout à l'heure. Seulement pour aujourd'hui, hein, José González, 79 ans, élu du Rassemblement national. Ensuite, les députés seront appelés un à un, par ordre alphabétique, pour venir à la tribune élire leur président en ligne. Au moins 4 candidats. Annie Genevard des Républicains, Sébastien Chenu du Rassemblement National, Yael Braun-Pivet, la favorite candidate de la majorité, et un candidat désigné par la NUP.
Et Thomas, c'est donc une femme qui devrait être élue à la présidence de cette Assemblée.
Oui, sans surprise, ça devrait être Yael Braun-Pivet. C'est elle qui a été choisie par la majorité. Elle est assez peu connue du grand public. Hein. Éphémère ministre des Outre-mer, ancienne présidente de la Commission des lois, de la Commission d'enquête Benalla. Mais c'est surtout la première fois qu'une femme sera élue présidente de l'Assemblée nationale.
Thomas Després en direct de l'Assemblée nationale. On suivra bien sûr tout ça à partir donc de 15h.
Au lendemain d'une nouvelle plainte pour tentative de viol, la contre-attaque de Damien Abad.
Son avocat prend la parole, une première depuis le début de cette affaire et les premières accusations. Il l'assure, son client est innocent. Il ne connaît d'ailleurs pas, dit-il, l'élu qui l'accuse.
Damien Abad n'a jamais commis les faits qu'on lui reproche. Jamais. Il nie, mais de façon catégorique. Donc il n'y a même pas de question sur un souvenir éventuel. Et là, je suis au tribunal pour déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse parce qu'il ne s'agit pas de laisser comme ça la possibilité à des personnes de porter plainte lorsque les faits sont faux. Il a tout à fait reconnu qu'il lui arrivait d'envoyer des textos tard la nuit. Il le regrette dans des moments où il finissait une journée assez difficile et il est confus si par hasard des personnes qui ont reçu ces textos ont été blessées. Mais Damien Abad n'a jamais commis de tentative de viol. Damien Abad n'a jamais abusé une femme.
Maître Benoît Chabert, l'avocat de Damien Abad, joint pour RTL par Thomas Proutot. Dans l'affaire Jubilar, nouvelle audience ce matin, nouvelle demande de remise en liberté pour Cédric, le mari de Delphine. Dans le même temps, de nouvelles recherches sont en cours, à l'aide notamment de drones pour tenter de retrouver le cœur de l'infirmière disparue en 2020. Et puis à Strasbourg, deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, et l'audience était consacrée ce matin à la personnalité du meurtrier présumé de Sophie Lottane. Et Yannick Collin, vous êtes sur place pour RTL, l'accusé n'a pas hésité à se vanter d'avoir croisé les plus grands criminels français en prison.
Et oui, l'enquêtrice de personnalité qui a longuement discuté avec Jean-Marc Reiser a expliqué qu'il se délectait avoir côtoyé Émile Louis, Francis Holm et Michel Fourniret à la prison d'Ensisheim. Jean-Marc Reiser se lève, mécontent. C'est faux, dit-il d'une voix forte. On se dit qu'il va contester, mais pas du tout. Il veut juste corriger un détail. Je n'ai jamais parlé de Michel Fourniret, j'ai côtoyé Émile Louis et Francis Holm, précise-t-il avec fierté, regard effaré sur les bancs des parties civiles. Le rapport de personnalité décrit aussi un Jean-Marc Reiser qui a une très haute estime de lui-même, de sa prestance physique, de son parcours universitaire. Il a même tenté le concours de l'ENA. Il a réussi l'écrit, mais il a seulement échoué à l'oral. L'enquêtrice, qui reste aussi marquée par ses 9 heures d'entretien avec lui, il a carrément tenté de lui faire du pied pour la rendre mal à l'aise. J'étais interloqué qu'il cherche à faire ça. D'ailleurs, pour la première fois de sa carrière, elle a dû être accompagnée par un collègue pour ses entretiens. Son service ne voulait pas la laisser seule en face de Jean-Marc Reiser.
Yannick Collin, en direct de la cour d'assises de Strasbourg sur RTL. Gérald Darmanin a lui présenté ses excuses un mois après le fiasco du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur reconnaît une part de responsabilité.
Je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion. Je constate que depuis, il y a eu 3 grands matchs au Stade de France, il n'y a eu aucune difficulté.
Ça veut dire que c'est la préfecture de police qui a complètement dysfonctionné ?
Moi, je suis le chef d'administration, je ne fais jamais de punition ad hominem. Mais peut-être que dans le secret de mon bureau, il existe des changements. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Viendra la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là, mais il est certain qu'on a un changement d'organisation.
Il est sur la sellette ?
Il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit s'en prendre à telle ou telle personne.
Gérald Darmanin, invité d'Alba Ventura sur RTL ce matin.
En Allemagne, suite et fin du sommet du G7.
Un sommet très largement consacré à l'Ukraine. Le G7, d'ailleurs, s'engage à contribuer à la reconstruction du pays. Sur le terrain, les recherches se poursuivent dans les décombres du centre commercial visé hier par des missiles russes à Kremenchuk. Au moins 18 morts. Et comme à chaque fois, Sophie Jousselin, la propagande russe tourne à plein régime.
Oui, une propagande russe très classique, bien huilée. Le Kremlin ne reconnaît pas les faits, déforme la réalité. Ce matin, le ministère russe de la Défense affirme que Moscou a visé un dépôt d'armes livré par les pays occidentaux. Armes stockées dans une usine de véhicules de chantier proche du bâtiment. Ce seraient les détonations des munitions qui auraient alors provoqué l'incendie du centre commercial, un établissement qui était fermé, ajoutent les militaires russes. Cette désinformation a vocation à être largement relayée, notamment sur les réseaux sociaux, pour l'imposer à tous, comme l'a expliqué à Émilie Bojard Victor Chenderovitch, ancien présentateur de télé russe en exil en Europe.
Des équipes entières travaillent à manipuler l'opinion. Dès qu'il se passe un événement important, elles reçoivent des sortes de fiches qui leur expliquent quoi dire et elles créent plusieurs versions d'un événement pour qu'on ne puisse plus connaître la vérité. Comme sur le massacre de Boutcha, il y a eu la version « c'est un photomontage », puis la version « ce sont les Ukrainiens qui ont tué tous ces gens ». Au final, ça crée de la confusion.
Et il y a une chose de sûre dans ce que dit le ministère de la Défense russe. Il y a bien une usine de machines de chantier à côté du centre commercial.
Et Sophie Josselin du service étranger de RTL. Et j'ajoute à l'instant cette dernière déclaration du porte-parole de Vladimir Poutine. Il indique que la Russie arrêtera son offensive quand l'Ukraine et les autorités et l'armée ukrainienne auront capitulé.
À 10 jours du début officiel des vacances scolaires, ces chiffres encourageants pour le secteur du tourisme.
Les réservations sont en hausse, plus 10% par rapport à 2019, soit avant le Covid. Les touristes étrangers notamment sont de retour, les Américains entre autres, comme a pu le constater pour RTL Lisa Guinic.
Le pied à peine posé à Paris, Brenda, originaire de Floride, s'est tout de suite dirigée vers le musée du Louvre.
On n'a pas du tout voyagé pendant le Covid, c'est notre premier gros voyage. C'est magnifique, j'adore.
Même constat à la Tour Eiffel, Jean-François Martins, le président de sa société d'exploitation, voit de plus en plus d'Américains monter les marches de la Dame de Fer.
Ils sont 10 fois plus en juin à réserver qu'ils n'étaient en janvier. C'était un des pays qui, pendant la crise Covid, avait un désir de Paris qui restait très élevé. Et donc, ils sont aujourd'hui très nombreux et ils représentent près d'un visiteur sur 5 à la Tour Eiffel en ce moment.
Jennifer Bocara, directrice générale de l'hôtel Les Jardins du Faubourg, près de la Concorde, remarque aussi ce retour des Américains depuis printemps. Aujourd'hui, ils réservent la moitié de ses chambres.
Juillet-août s'annonce très très bien avec une recrudescence des Américains. Les Américains, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne de séjour qui change énormément. Un Européen va rester à peu près 2,5 nuitées sur Paris, alors que l'Américain, c'est entre 4 et 5 nuits sur Paris.
En restant plus longtemps, les Américains dépensent donc plus dans les commerces parisiens. Une vraie bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme.
À Paris, le reportage pour RTL de Lisa Guinic. Et puis à propos de vacances, il vous sera bientôt possible, Pascal, d'envoyer une carte postale sans passer par la poste ou le bureau de tabac. La poste lance en effet le timbre digital. Un clic et on a son timbre, c'est ça Armelle Lévy ?
Presque, en trois clics.
Trois clics,
okay. C'est déjà arrivé, vous êtes dans la rue, vous passez devant une boîte aux lettres et vous vous dites « mince, j'ai oublié de poster ma lettre et je n'ai pas de timbre ». Là, vous pourrez dégainer votre smartphone et aller sur l'appli laposte.fr. Vous allez obtenir un code composé de 8 caractères, chiffres et lettres. Ce code, vous allez simplement l'écrire en haut à droite de l'enveloppe ou de la carte postale à la place du timbre et vous n'aurez plus qu'à la poster dans une boîte aux lettres. C'est simple. Comme une lettre à la poste, oui. Me direz-vous. En fait, non, pas tant que ça. Nathalie Collin de la branche numérique de La Poste a tout prévu pour éviter la fraude.
C'est très simple pour le client. C'est très compliqué d'un point de vue technique, puisqu'il faut être capable d'avoir des machines de tri qui détectent quand le timbre a déjà été utilisé, bien sûr. Donc n'essayez pas d'utiliser votre timbre deux fois, ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi détecter des faux, et même des faux qui soient très très proches. Et beaucoup de gens n'écrivent pas très bien. À ce moment-là, ça sort de la chaîne de tri, ça va en non mécanisable et on le traite à la main.
Le timbre digital serait mis en place d'ici 6 mois et ne concernera que les timbres verts à commencer à 1,16€.
Bon, bah, ce ne sera pas pour cet été tout de suite. Merci à vous Armelle Lévy pour toutes ces explications. Une dernière info avec cette bonne nouvelle, on verra bien le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France,
bah oui, hein,
Florian Sénéchal. Et bah oui, sacré champion de France dimanche sera là. Il a été rappelé après le forfait d'un de ses coéquipiers positifs au Covid.
Nos deux sujets du jour, le premier c'est le Covid. Le masque doit-il redevenir obligatoire dans les transport, on en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Les endroits clos où on est en promiscuité trop directe. Oui, je ne fais pas que le recommander, je le demande.
C'était hier soir sur RTL, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, appelait les Français à remettre le masque dans les transports. Question de civisme, dit-elle. Bonjour Guillemette Franquet.
Bonjour.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'appel n'a pas été entendu, en tout cas pas encore. Vous vous êtes déplacé dans les transports franciliens ce matin.
Exactement. Je suis partie de Vincennes sur le RER A. Je suis passée par la gare de Lyon et je suis allée jusqu'au terminus de la ligne 1 à la Défense, donc Est-Ouest. Et globalement, pas grand monde le porte. Hein. Je dirais une personne sur 5, plutôt moins d'ailleurs. Les personnes qui se masquent, ce sont plutôt des personnes de plus de 40-50 ans. Les jeunes notamment, j'en ai vu quasiment aucun de masqué. Et ceux qui se masquent, c'est plutôt parce que voilà, ils ont peur d'un retour de l'épidémie. Certains ont entendu l'appel de la ministre sans toujours l'appliquer. Globalement, les personnes que j'ai entendues, c'est des personnes avec qui j'ai parlé, sont des personnes qui n'avaient pas de masque.
J'avoue que je vais voir le monde qu'il y a dans la rame. Si la rame est complète, je vais peut-être le mettre. Ou si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est pas très bien, si j'entends des gens éternuer, je vais le mettre. Mais en soi, j'ai vraiment pas envie de le mettre.
Disons que si c'est blindé, peut-être. Mais sinon, non, je pense pas. Dans le métro, c'est vrai qu'on peut se retrouver à 50 dans une rame. Le train, il y a quand même un peu plus d'espace. Donc bon, je pense pas que ce soit très scientifique comme approche, mais c'est plus psychologique.
S'il y a urgence, je pense que oui. Mais si, sinon, bah, autant ne pas avoir de masque.
Quoi. J'ai écouté ce matin sur votre radio. C'est une demande obligatoire, je dirais. Forte recommandation. Ouais. C'est extrêmement conseillé, effectivement. Moi, je porte le masque.
Alors ça, c'est les réactions. On rappelle
exactement
les chiffres, alors,
les derniers.
Absolument. La semaine dernière, c'était 62 000 nouvelles contaminations au Covid-19 par jour.
En augmentation de plus de 50%.
Chiffre qui est toujours sous-estimé. On imagine qu'il faut multiplier par 5 à chaque fois.
Alors, on va retrouver, Pascal, si vous le voulez bien, le professeur Adnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. On vient d'entendre à la fois la ministre, ses réactions de voyageurs ce matin dans les transports. D'après vous, est-ce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire revenir tout simplement au masque obligatoire ?
Non, je pense que la ministre a fait une recommandation de bon sens. Effectivement, on assiste à une remontée très importante du taux d'incidence sans qu'il y ait encore réellement un vrai impact hospitalier. Je vois quelques patients Covid aux urgences, mais c'est souvent des patients, ce qu'on appelle Covid accessoires, c'est-à-dire qu'ils viennent pour autre chose, mais on trouve une PCR positive. Donc je pense que pour les personnes à risque et pour les lieux à risque, comme les lieux confinés avec une haute densité de population, c'est une recommandation de bon sens. Je pense qu'il faudrait passer le pas de mesures coercitives si vraiment il y avait des indicateurs hospitaliers inquiétants, comme une augmentation du nombre de patients en réanimation ou aux urgences.
Ce qu'on n'observe pas actuellement. Pour l'instant, la première ministre réunit...
Si, ça augmente très légèrement, mais si vous voulez, c'est plutôt des Covid, ce qu'on appelle des Covid accessoires, des patients qui ont une PCR positive, mais qui viennent pour autre chose.
La première ministre réunit cet après-midi les préfets et les ARS, les agences régionales de santé, pour faire le point. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement prenne de nouvelles mesures, aille au-delà, masque ou pas masque d'ailleurs, vu la situation ?
Bah écoutez, pour l'instant, non, je crois qu'il faut gérer ça comme une épidémie de grippe. Vous savez que la grippe, ça fait entre 5 000 et 15 000 morts par an, et pourtant, on ne met pas de masque, on n'a pas de confinement. À quoi on assiste, c'est effectivement une épidémie de Covid chez une population qui est très immunisée, et donc qui n'a pas, si vous voulez, beaucoup de formes graves. Je n'ai pas revu, si vous voulez, de patients en détresse respiratoire qui ont des pneumonies à Covid, des patients que je suis obligé de mettre en réanimation. Donc, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, une pression hospitalière importante, on n'a pas à faire, si vous voulez, de mesures coercitives. Ce qui fait la gravité d'une épidémie, c'est son impact hospitalier, c'est pas forcément son taux d'incidence.
Monsieur Annet, d'abord, c'est intéressant de vous écouter et j'ai envie de dire sympathique de vous écouter parce que vous êtes rassurant, mais j'observe que dans la communauté des médecins, il y a, me semble-t-il, un changement d'attitude. Il y avait beaucoup de pessimisme il y a encore quelques mois et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes moins alarmiste, comme si on en avait peut-être trop fait. Est-ce que je me trompe ?
Je pense qu'on est vigilant surtout. On est moins inquiet. On est moins inquiet par rapport aux précédentes vagues parce que on a bien conscience que la population française est largement vaccinée et largement immunisée parce qu'ils ont eu le Covid lors des périodes précédentes. On a tous conscience que l'immunité est transitoire. Et là où on peut avoir une source d'inquiétude, ça sera plutôt en automne ou en début d'hiver où les températures vont diminuer parce qu'il y a une saisonnalité de cette maladie. Et en plus, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui serait plus méchant que ce fameux BA5 ou BA2 qui sont les sous-variants Omicron qui sont quand même des variants qui ont l'air quand même moins méchants, qui s'attaquent aux voies aériennes supérieures mais qui n'attaquent beaucoup moins le poumon.
À ce moment-là, à l'automne, il faudra un rappel, professeur, sans doute.
Alors, c'est la grande question. Hein. Les laboratoires nous promettent des vaccins nouvelle génération qui seraient optimisés sur les variants. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose de bien. C'est ce qu'on assiste aussi pour la grippe. Hein. On change de vaccin tous les ans. Et avec une vaccination ciblée sur les personnes les plus à risque, je pense que ça va être effectivement une option qui devrait voir le jour.
Pas pour tout le monde, donc.
En automne.
C'est ça, hein. Pour les plus sensibles.
Je pense que tant qu'on n'a pas un variant ultra méchant, je pense qu'on pourrait limiter la vaccination. Je dis bien, on pourrait, parce que toutes les prédictions en termes de Covid ont montré que c'est très aléatoire et on se trompe souvent. Donc, on pourrait avoir une vaccination, comme pour la grippe, ciblée chez les personnes les plus fragiles.
Bah, je retiens effectivement un message rassurant et je retiens aussi que le chiffre des contaminations, il faut toujours le mettre en perspective et notamment parce que ce BA5 est moins dangereux, nous dites-vous, avec des formes qui sont moins graves et c'est quand même très important de le dire et même de le redire. Il est 12h51. Merci donc à Frédéric Adnet qui est chef des urgences de l'hôpital Avicienne à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Notre deuxième sujet dans une seconde, la dette qui atteint les 3000 milliards d'euros. Et Martial You vient d'entrer dans ce studio. Est-ce que la France va finir comme la Grèce? Voilà une question provocatrice. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Tout n'est pas possible. Des dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 ou de 25 milliards d'euros sur le carburant, comme le proposent certaines formations politiques, ben, elles sont trop coûteuses. Ou alors il faudra renoncer à d'autres choses. Tout n'est pas possible, tout simplement, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques.
Et c'était hier chez nos confrères de BFM TV. Bruno Le Maire tirait la sonnette d'alarme. Tout n'est pas possible. Les dépenses publiques ont atteint la cote d'alerte. Alors à quoi faut-il s'attendre? Y a-t-il vraiment danger? C'est le deuxième débat de RTL Midi avec nous Martial You, chef du service économie de RTL. Pascal, vous levez la main, pourquoi?
Oui, parce que j'ai dans l'oreille...
L'État ne peut pas tout.
Non, surtout la phrase de François Fillon, je suis à la tête d'un État en faillite. Ouais.
Bon, on a atteint, Martial, un record, 3000 milliards d'euros.
On s'en approche.
C'est du jamais vu. Comment on va finir? Comme les Grecs, comme le demandait Pascal? Alors,
non, je ne crois pas, parce que c'est assez cynique ce que je vais dire, mais on a deux airbags qui s'appellent l'Italie et l'Allemagne. L'Italie, parce que leur situation est pire que la nôtre. Donc l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Si l'Italie tombe, on ne peut pas faire tomber la France derrière, ou alors... On fait tomber l'Europe et on fait tomber l'euro, ça c'est autre chose. Mais on a bien vu avec les Grecs qu'on n'avait pas été jusqu'à cette extrémité-là, on avait tout fait pour les sauver au final. Et puis l'Allemagne, parce que le modèle économique de l'Allemagne jusqu'à maintenant, c'était j'ai de l'énergie pas trop chère, je produis pour vendre aux Asiatiques et aux Américains. Sauf qu'aujourd'hui, les Asiatiques et les Américains produisent pour eux, n'achètent plus les produits allemands, les voitures, les boulons, tout ce que vous voulez. Et l'Allemagne est obligée de s'endetter pour acheter son énergie, son gaz. Et donc aujourd'hui, elle fait tourner des centrales à charbon à plein régime, elle est en
mal
difficulté,
placée pour nous donner des
elle peut pas nous, voilà, elle peut pas nous faire la morale dans la mesure où elle est pas capable de tenir ses propres objectifs. Donc vous voyez, on a l'Italie et l'Allemagne qui nous servent d'airbag, comme je disais.
Bon, le quoi qu'il en coûte, manifestement, il est toujours de mise. Vous le rappeliez ce matin, hausse du SMIC, RSA, APL, triplement de la prime Macron, chèque alimentation, etc. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir faire des économies?
Ben, c'est ce qui est dingue, c'est que c'est un peu comme chantait Bachung dans les années 80, hein, c'est comment qu'on freine. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a, on n'est pas du tout dans un instant où, même si le discours, on vient de l'entendre de Bruno Le Maire, est très prudent en disant attention, la cote d'alerte est atteinte, on n'est pas du tout en train de faire des économies. On est en train d'en rajouter. C'est-à-dire qu'on a fait 25 milliards là, de cadeaux, ou en tout cas d'aide aux Français pour leur pouvoir d'achat, c'était sur les mois écoulés. On en remet 25, là. On en remet 25 et on ne voit pas à quel moment, si vous voulez, on est dans une sorte de délire et de déni. La dette, c'est un petit peu comme le cholestérol ou la cellulite.
Les dépenses publiques, enfin, les dépenses de l'État, le train de vie de l'État, est-ce qu'on peut le diminuer?
On ne peut pas en ce moment. Vous voyez bien aujourd'hui qu'on augmente le point d'indice des fonctionnaires, on va augmenter les minima de retraite, on va augmenter le SMIC, parce qu'aujourd'hui, on est face à un problème d'inflation qui fait que l'État, s'il veut demander des efforts sur les salaires au secteur privé, est obligé lui-même de montrer l'exemple.
Mais ceux qui nous disent qu'il faut fermer le robinet, on a notamment entendu des républicains dire ça suffit.
Oui, mais les républicains, mais dans le même temps, il faut baisser la CSG, il faut... C'est une posture. En tout cas... C'est impossible d'être audible aujourd'hui devant l'opinion publique et après les élections qu'on vient de vivre en disant on va se serrer la ceinture. On peut le dire, mais on ne va pas le faire.
Bah alors pourquoi il faudra rembourser, non?
Oui. Ah bah il faudra rembourser, c'est certain.
Mais pourquoi Bruno Le Maire dit ça? Alors j'ai envie de dire qu'il se taise.
Mais non, mais parce que lui, Bruno Le Maire, en fait, il a deux objectifs.
La cote d'alerte, c'est clair ce que ça veut dire, la cote d'alerte.
C'est dire à Bruxelles, on a conscience du problème, déjà les rassurer, parce qu'on est quand même gentiment en train de mettre sous le tapis la réforme des retraites qui était quand même un des signaux de réforme structurelle pour dire à Bruxelles, on va quand même prendre les choses sérieuses en main pour faire des économies. Donc ça, déjà, on est en train de l'oublier. Et puis Bruno Le Maire, il tient ce discours parce que c'est qui Bruno Le Maire? C'est un républicain parmi les macronistes. Et aujourd'hui, pour faire la politique demain à l'Assemblée nationale, il faudra tendre la main à ces fameux républicains.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de psychologie aussi là-dedans ? C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a fait qu'on a distribué de l'argent gratuitement partout et qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire aux gens qu'on n'a pas d'argent précisément. On est habitué désormais à cela et qu'aller dire...
On a franchi un cap, en fait. On a franchi un cap avec le Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unité de valeur, quand vous faites une mesure, c'est dans les 10 milliards. C'était inenvisageable. Enfin, il y a 5 ans, vous annonciez 1 milliard de mesures, c'était déjà énorme. Donc là, le maître étalon a changé, et c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur des tels volumes lorsqu'on fait une aide, que si vous annoncez 800 millions, vous avez l'air petit joueur.
Mais c'est l'argent magique pour les uns et les autres. C'est-à-dire expliquer aux Français qu'il n'y a pas d'argent alors que tu viens de tout payer pendant 2 ans, il y a de la psychologie là-dedans.
Oui, mais parce que ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit l'État qui paye la facture de gaz, qui paye le plein d'essence et qui paye une partie des salaires. Ça, ça n'est pas normal. C'est ça qu'il va falloir faire. Et c'est cette pédagogie-là qu'il va falloir faire, c'est de dire, écoutez, là, c'est au secteur privé, c'est aux entreprises, c'est à l'ensemble du quand on parlait hier d'économie, d'énergie, etc., c'est l'ensemble du corps des Français qui doit se prendre en main, améliorer certes les salaires d'un côté, mais aussi faire des économies individuellement.
Bon, quelques notes de Bachung pour nous...
Ah, bah, vous l'avez formidable.
Mais vous savez, j'ai dit la Grèce, certains prophétisent un scénario à la grecque. Hein.
Moi, j'y crois
pas. Certains prophétisent que le jour où l'Allemagne va lâcher la France, ça va être compliqué. Hein.
Ils peuvent... Enfin, ça c'est mon opinion. Hein. C'est mon opinion. Mais
parce que
l'Allemagne...
là, c'est les pensions qui baissent en retraite, c'est les fonctionnaires qui sont plus payés.
Oui, mais la Grèce avait un système public complètement exempt, où personne payait d'impôts.
J'entends bien.
Les Allemands, il ne faut jamais oublier que le premier partenaire économique de la France, de l'Allemagne, c'est la France.
C'est fini. C'est fini. Ludovic van der Kerkhoff, tel un arbitre, vient de siffler dans mon oreille. La pause, à tout de suite. RTL Midi.